marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Ce n'est qu'un début, continuons le combat.
À chacun son mais. Aujourd'hui, Claude de Waal, la grève parle.
Sans ouvriers, qu'est-ce qu'on ferait ? Mais voilà ce que je voulais vous dire. Un patron, il n'a pas le droit d'augmenter, de baisser ses ouvriers quand il veut. Il augmentera un jour, il baissera un jour.
Quand tu achètes une maison, comme moi j'ai acheté, enfin comme mon papa a acheté une maison, elle est à nous, on est libre de faire ce qu'on veut, même de la casse.
Moi je sais pas, mais j'aime pas les patrons.
Les enfants d'une classe freinaient. Les ouvriers occupent une position centrale en mai. Les communistes, les gauchistes, les intellectuels, jusqu'à nombre d'ecclésiastiques, tous prétendent se mettre sous leur commandement. Mai occupe une place centrale dans la vie de Claude de Waal, jeune ouvrier chez l'équipementier automobile Ferrodo à Amiens. Plus tard, en 1980, Ferrodo est devenu Valeo, je vais bien. Depuis 1968, Claude de Waal, lui, va peut-être mieux. De plus de 33 jours de grève, Claude de Waal a compris que l'histoire de l'expérience ouvrière ne se confondait pas avec celle des syndicats et qu'elle était nécessairement politique. Dès qu'on établit un rapport de force avec ses chefs, les lointains et plus encore les proches, on fait déjà de la politique. Ferrodo, avant de devenir une tête de pont, était une usine peu syndicalisée. 68 y a formé des jeunes qui pouvaient être sensibles au langage des étudiants et de l'extrême gauche. Après s'y être frotté, Claude de Waal va longuement voyager et entreprendre des études. Une licence en lettres, le concours de rédacteur territorial. Il a une dilection pour les archives. Il en a constitué assez sur 68 à Amiens pour que les archives départementales de la Somme en fassent un fonds qui porte son nom. Beaucoup d'historiens négligent d'aller aux archives. Voilà qu'un ouvrier leur en offre.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Claude de Waal, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean Lebrun.
Bonjour, monsieur Claude de Waal. Est-ce que on peut dire où vous habitez en 1968? Vous avez 22 ans. Vous habitez encore chez vos parents?
Oui. Bon, 22 ans. C'était l'habitude. On restait chez ses parents. Avant de quitter le nid, j'habitais à 20 km, un petit village qui s'appelle Ailly-sur-Noye. Donc chaque matin, ben, je prenais la mobylette, hein, on faisait les 2-8 dans cette usine. Je partais à 5 heures pour arriver à 6 heures pile à l'usine, puisqu'il y avait une pointeuse, il valait mieux arriver à l'heure. Et oui, bon, voilà.
Vous étiez au P2.
Oui, j'étais au P2 rapidement, puisque...
Au moi, P2, ça veut dire ?
Ça veut dire ouvrier professionnel, deuxième catégorie. C'est vrai que j'ai fait 3 ans d'école industrielle à Amiens. J'ai passé le CAP, différence de beaucoup d'autres jeunes du village, qui plus aisés, qui eux allaient au lycée, qui avaient un autre profil. Hein. Bourdieu a bien parlé de cette question-là, de la reproduction sociale. Nous, on n'a pas le choix. Donc moi, je nais dans une famille très, très pauvre. On a un petit peu connu la faim, même dans la famille, je vous le cache pas. Moi, dans ma famille, on n'avait jamais vu un livre. Hein. Je suis né en 45, moi j'ai souffert du rachitisme, on a manqué un peu de tout après la guerre. Hein. Et en 63, avec le CAP en poche, on montait à la zone industrielle d'Amiens et on choisissait son usine.
Alors, un peu avant que ne s'installe Ferrodo, il y avait Dunlop, Goodyear, Carbone, Lorraine. On entendra tout à l'heure les archives que vous avez vous-même constituées, mais... Laissez-nous quand même vous faire entendre les archives de l'ORTF, très respectueuses du monde patronal. Celle-ci date de mars 1967. C'est une visite de Ferrodo. Avec qui? Avec le directeur, bien sûr.
Monsieur Rist, une usine comme la vôtre joue un rôle important dans l'économie régionale, d'autant que vous êtes parmi l'une des usines les plus grandes de Picardie.
Oui, nous sommes dans les 3 premiers de la Picardie et je pense que nous sommes le premier d'Amiens. Nous employons 1400 personnes à Amiens.
Vous êtes installé à Amiens depuis 1958. Je sais que nous vivons une époque de décentralisation, mais pourquoi avoir choisi tout spécialement Amiens?
Amiens s'est trouvé à être celle qui présentait pour nous le plus d'avantages. avec des embranchements voies ferrées, le raccordement de tous les fluides, la proximité de l'autoroute du Nord, et comparativement aux autres zones industrielles, nous avons trouvé que celle-ci présentait des avantages notables. Deuxièmement, pour rester dans le centre de nos activités du groupe Ferrodo, Amiens se trouve ni trop loin ni trop près de Paris et de Caen, qui sont nos deux autres centres d'activité.
Oui, Saint-Ouen, Condé-sur-Noireau, en Normandie. Mais qu'est-ce que c'est que ces signes de dénégation que vous me faites, Claude de Wolf?
Ben, ils ont choisi Amiens parce qu'il y avait une crise agricole dans la région et pouvaient trouver une main-d'œuvre à bon marché et très servile, les ouvriers agricoles. D'ailleurs, c'est avec eux que j'ai travaillé sur les chaînes à l'usine d'Amiens chez Ferrodo. Vous voyez ce que c'est que le travail à la chaîne, hein. C'est Charlie Chaplin en a bien montré
la
perversité. Vous faites 500 fois le même geste à l'heure. Et c'est ces ouvriers agricoles qui acceptaient de travailler comme ça parce que, bon, il y avait un revenu et ils pouvaient faire le jardin l'après-midi après le travail. Et donc j'ai travaillé parmi eux. Moi j'étais ouvrier professionnel. Bon, je réglais les machines. Donc ce monsieur là ne dit pas tout. Et c'est ce qu'on appelait les bêtes de somme finalement, les ouvriers serviles. Et faut dire qu'on était durement exploités dans cette usine.
Je sens là quand même chez le jeune homme de 20 ans, 22 ans où vous étiez, une dimension politique déjà, mais de la vie politique, vous connaissiez surtout le point de vue du parti, du Parti communiste, parce que le grand homme chez Ferrodo, le surhomme, dites-vous, c'était Maxime Grometz.
Ah, Maxime, c'était un syndicaliste au montage, et je peux vous dire que lorsqu'il allait voir le patron, ce patron faisait, comme on dit, dans ses pantalons tellement... C'était un surhomme. Nous, avec nos yeux de 20 ans, on avait l'impression qu'il survolait l'usine, et un homme hors du commun. Et malheureusement, bon, fin 64, ils ont trouvé des tracts politiques dans son vestiaire. C'était l'occasion de le licencier. Et bon, on s'embarrassait pas des arguties juridiques à l'époque. Il faut dire que bon, dans cette usine, il y avait un flicage assez efficace.
Alors, vous guettez par RTL, que vous écoutez dans la maison d'Ailly, chez vos parents, le mouvement qui se développe. 14, 15, 16 mai, des grèves spontanées qui naissent dans les régions, comme on dirait aujourd'hui. Et puis, la grève va s'étendre à partir du 18 jusqu'à la zone industrielle d'Amiens.
Bien avant, hein, monsieur Lebrun.
Oui, monsieur Dewell.
La nuit des barricades à Paris, dans le quartier latin, le 10 mai, c'est un vendredi, c'est relayé par RTL. Et le samedi matin, je retourne à l'usine et nous, les jeunes, on est vraiment remués. On se sent solidaire, CRS, bon, frappé chez les jeunes. Moi, je dis à mon chef d'équipe, mais alors, nous, on supporte pas. C'est là qu'on a pris conscience qu'il fallait, temps peut-être de se révolter.
Mais attendez, il faut quand même la décision des syndicats le 18 mai.
On a fait pression sur les syndicats pour que on se mette dans la grève. Nous, on dit, on n'en peut plus. On avait subi déjà 10 ans de gaullisme. C'était fermé, oppressive. Et il faut dire que nous, ouvriers, bon, on travaillait plus de 50 heures par semaine et on profitait pas des bienfaits des richesses produites. On voyait bien le monde extérieur, la petite bourgeoisie dans le village, tout ça. Eux s'en foutaient, quoi. Nous, on crève dans cette usine. Nous, on n'en pouvait plus. On voulait vivre différemment et l'occasion nous a été donnée là, par la révolte des étudiants à Paris.
Là, ce que je vais vous faire entendre, vous en reprendrez bien un peu, c'est l'ORTF de Picardie, le 20 mai.
Eh bien, écoutez, dans le secteur privé, il est actuellement difficile de faire le point, étant donné que ce secteur est actuellement en pleine évolution. En effet, des entreprises ont commencé vendredi, d'autres ce matin. Un point test, la zone industrielle d'Amiens. Dans de nombreuses industries, 100% de l'effectif est en grève, selon les déclarations des responsables syndicaux. La plateforme des revendications est sensiblement la même pour les employés des usines, à savoir augmentation des salaires, réforme de la sécurité sociale, cinquième semaine de congés payés, réduction à 40 heures des horaires de travail sans diminution de salaire, abaissement de l'âge de la retraite et liberté syndicale. Ceci évidemment sans compter des revendications propres à chaque usine. Dans la plupart des usines atteintes, les locaux sont occupés par les grévistes et les entrées surveillées par des piquets de grève.
Unité ouvrier étudiant. Unité ouvrier étudiant.
Nous luttons jusqu'au bout. Nous luttons jusqu'au bout. Nous luttons jusqu'au bout.
Étudiants,
solidaires des travailleurs.
Étudiants,
solidaires.
On va vous faire dire ce qui se passe dans les piquets de grève et dans l'occupation de l'usine. Mais d'abord, est-ce qu'il y a eu des étudiants qui venaient raser les murs de l'usine? Est-ce que vous alliez à Amiens, au collège littéraire, où se tenaient beaucoup de réunions?
Oui, oui. Oui, étonnamment, bon, très vite, lors des piquets de grève, on a vu arriver les intellectuels. Hein. La Maison de la Culture, ça a été les premiers à venir aux portes de l'usine. On est même descendu le soir les rejoindre. Et ensuite, les intellectuels de la cité scolaire, professeurs de philo, etc., sont venus aux portes des usines, de l'usine. Et différemment de ce qui s'est passé chez Renault, à Billancourt, où les apparatchiks ont vraiment fait un barrage, nous, étonnamment, on était très ouverts, on avait 20 ans, on était très curieux de voir ce monde qu'on ignorait, parce que à l'époque, bon, la société française, hein, il y avait d'un côté les travailleurs, hein, et de l'autre les intellectuels. Hein, c'est deux mondes qui se côtoyaient, qui s'ignoraient. Moi, j'avais jamais vu un professeur. Hein. Donc, on était très curieux. Et ce qui gâtait pas la chose, bon, les filles étaient très belles. Elles jouaient peut-être aussi sur cette façon de nous séduire. Bon, donc très rapidement, bon, nous ont entraînés. On est descendu chez eux, dans leurs appartements. Localement, la CGT, officiellement, ne disait rien au piquet de grève. Par contre, derrière, bon, l'UD, je me souviens, l'UD et CGT, Daniel Lemaire,
l'Union départementale,
oui, nous maltraitaient, les faux révolutionnaires, etc. Mais de façade, bon, la CGT n'a jamais rien dit à Ferraudeau.
Alors, comme vous vous décrivez comme un jeune célibataire, racontez le rôle qui était échu aux jeunes célibataires dans l'occupation.
Exact. Vous visez juste. Bon, il faut. Vous savez ce que c'est qu'une occupation. Hein. Bon, pour nous, c'était un peu notre 1936. Occuper une usine, c'est tenir le piquet de grève. C'est gardienner la nuit, coucher sur place. Hein, et ce qui gâtait pas notre plaisir. Bon, vous savez, dormir dans le bureau du patron, dans ses fauteuils en cuir, c'est inoubliable pour nous. C'était une sorte de revanche sur ce qu'ils nous avaient fait subir. Donc, oui, c'était long quand même. Bon, faut reconnaître que le syndicat n'a pas su beaucoup animer, à la différence de 1936. On a trouvé le temps long. On avait du mal à se nourrir. Fallait descendre, acheter des sandwichs. Au fur des semaines on passait, bon, 33 jours, on a été l'objet d'intoxication psychologique. Tout le monde est venu nous dire, mais attention, l'armée est autour de Paris, vous allez être bientôt... Vous allez voir bientôt les CRS intervenir à l'usine.
Mais prenons quand même les premiers moments.
Oui.
C'est extra de fabriquer un drapeau rouge.
Oui, c'est
un boxeur à Haï.
Oui, la veille.
Brode, la faucille et le marteau.
Oui, oui. On a occupé le lundi 20. Déjà le 19. Bon, c'est moi qui a confectionné le drapeau rouge avec la faucille et le marteau. Bon, moi, je vous cache pas que j'étais sous l'influence du Parti communiste. Communisme dans le Nord, c'est un communisme thorésien, hein, qu'on peut même pas comprendre à Paris. Hein. On essaie, on mourait dans le Parti communiste, et contre-société. Hein, et c'est un communisme très dur, hérité de... Moi, j'ai fusillé dans ma famille, hérité de la résistance... Vous voyez le type de qu'a produit Maxime Gromel, c'est un communisme très dur. J'étais bon un peu embrigadé. Le 1er mai, j'écoutais Radio Moscou, c'est tout dire. Pour moi, c'était le paradis. Hein.
Oui, mais on va voir comment la grève vous fait évoluer, parce que c'est à ce moment-là que vous commencez à apprécier de plus en plus, non seulement Maxime, mais Léo Ferré, c'est extra.
Une robe de cuir comme un fuseau qu'aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans, comme un matelot, une fille qui tangue un air anglais. cet extra, un maudit blues qui chante la nuit comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Claude de Waal, ouvrier chez Ferrodo en 1968, 33 jours de grève à Amiens. La grève va parler, parce que les sons que vous allez entendre appartiennent à un fonds qu'a constitué plus tard Claude de Waal, fonds audiovisuel, fonds papier. Vous êtes devenu un archiviste à partir de 68. Où les avez-vous collationnés, ces papiers, ces tracts?
Ben, ce besoin de collectionner est venu un soir. Je travaillais en équipe le soir, il était 22h, je traîne, j'approche une grande poubelle, il y avait des copeaux de métaux, et je me suis aperçu que le patron avait tout jeté ses archives dans la poubelle. Depuis la création de l'usine, donc il y avait tous les tracts, hein, syndicaux, politiques, des notes diverses, des lettres, certaines lettres, c'est confidentiel, hein. Donc j'ai pu récupérer tout. Et faut dire que moi, pendant ces 33 jours, bon, j'ai peut-être fait concurrence au journalisme, mais j'ai toujours passé, j'ai vécu les événements avec un appareil photo dans ma poche, beaucoup photographié. Bon, la radio, ça peut pas se montrer. Et Monsieur Hamel, qui était aussi présent sur les piquets de grève, un ancien FTP qui avait fait la guerre, bon, ça ne rigolait pas. Donc le camarade Hamel, lui avait sa voiture personnelle au piquet de grève. C'était un radio amateur. Bon, lui a enregistré les discours syndicaux, mais on écoutait les radios de la police et des CRS. Et bon, c'était un peu pour le fun. Donc Hamel, bon, aujourd'hui est décédé, mais c'était un dur.
Donc rendons hommage au camarade Hamel, ce sont ces sons qu'on va entendre.
Voilà, c'était un peu, techniquement, ce sont des petits bobineaux, hein, il me les a donnés. Hein, tout le monde, ceux qui nous écouteront aussi dans la région d'Amiens, se souviendront de Paul Hamel, qui a été licencié 2 ans après 68. Il y a eu beaucoup de licenciements dans l'entreprise. Hein.
Mais attendez, pour l'instant, on en est à la grève à son sommet. Grenelle a eu lieu, le constat a été refusé le 27 mai à Renault-Billancourt. Ça n'a pas beaucoup d'écho chez vous, parce que vous continuez sur votre lancée avec les syndicats qui sont représentés là, la CGT, mais aussi la CFDT et FO. Nous sommes le 7 juin. La première voix qu'on va entendre, c'est celle du camarade Duval.
Exact.
Délégué CGT.
Sur le plan Ferrodo, les choses se durcissent de plus en plus. Comme dans la métallurgie en général. Nous avons d'abord, le matin, discuté sur la position dans les différentes usines du Ferrodo. La lutte est stationnaire tout partout, étant donné que la direction a pris une position générale de refus de négocier les revendications. Maintenant, au cours des discussions du matin, il avait été pressenti que ce qui se passerait chez Ferrodo dépendra beaucoup de ce qui se passera dans l'industrie automobile en général, particulièrement chez Renault. Alors, il y a un camarade Charan qui était avec moi, s'il veut compléter.
Donc je crois que le point le plus important là-dessus, c'est justement ce fameux accord Renault que tout le monde attend. Et il faut bien se mettre dans la tête que justement, c'est là que le but pour nous, c'est de venir jusqu'à temps au moins que les accords Renault soient signés. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, vous qui travaillez ici, qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun stock ici. Ils prennent les embrayages, enfin les pièces, une par une, pour ainsi dire, pour les envoyer dans les usines automobiles. À supposer que Renault, Citroën et Simca, tout ça, reprennent demain, et que nous, on tienne encore 2 jours la grève, qu'est-ce qui va les fournir? À ce moment-là, on tient la maison Ferrodo à notre tour.
C'est le délégué de la CFDT Parent qui a parlé à son tour. Vous faites l'expérience du groupe Vous allez à Paris.
À Paris, à Saint-Ouen, d'ailleurs.
Au siège de Ferraudot. Vous faites l'expérience de la branche automobile.
Oui. Oui, tout était conditionné en définitive par l'accord qui serait passé chez Renault. Il faut savoir que dans la métallurgie, Renault a toujours été déterminant dans l'évolution de syndicalisme. D'ailleurs, chaque année à la rentrée, on écoutait, nous, ce que Renault disait. C'était le là dans la métallurgie. Donc la discussion, évidemment, a été difficile chez Ferraudot. Le patron voulait pas négocier, mais il attendait l'accord Renault. Donc on a quand même déposé un cahier revendicatif le 25 mai. Mais bon.
Ce qui était difficile, c'est que vous étiez à contre-temps. C'est-à-dire que l'opinion avait commencé à se retourner, les élections législatives se préparaient. René Lamps, le député communiste, voulait être réélu.
Évidemment, il est même venu pour des usines nous faire peur. Les tanks sont autour de Paris, il va falloir terminer. On a eu beaucoup de pression, hein, de Maxime Gromès même est revenu vendre l'UMA, hein, je sais plus la date exactement, oui, il est venu le 6 juin, on peut retrouver cet UMA, c'était titré « Reprise victorieuse dans les usines ».
Ça voulait donc dire, il faut reprendre, camarade.
Bah oui, alors nous les jeunes, on s'est dit, mais ils sont en train de nous trahir, on n'a rien obtenu, nous on s'en foutait des élections législatives, hein. On voulait bien reprendre, mais avec, nous, notre revendication essentielle, c'était quand même la baisse des cadences, hein. Ça passait en priorité, parce que c'était le bagne, hein. Vous savez ce que c'est que le chrono, hein, qui passe dans les chaînes et qui décompose les actes, hein. On peut pas tricher avec un chrono, hein. Pour faire une pièce, bon, il faut tant de secondes, les cadences étaient infernales, hein. Dans cette usine, on aurait aimé les faire baisser, ensuite arriver la question salariale, on avait 700-800 euros par mois pour vivre.
On s'en sortait. Francs.
De francs, oui, excusez-moi. On pouvait s'en sortir parce qu'on faisait beaucoup d'heures supplémentaires. On travaillait 50-55 heures. Voilà.
Beaucoup. Ce que vous voyez, c'est que les rythmes n'allaient pas changer et qu'ils allaient peut-être s'aggraver et que les accords de Grenelle n'avaient pas touché cela.
Pas du tout. Pour nous, l'usine, bon, les conditions de travail, l'usine, bon, c'est un lieu très bruyant, qui sent mauvais. Plus tard, on saura que nous, on travaillait dans l'amiante, on ne savait pas que c'était cancérigène, hein. Moi, mais beaucoup de mes camarades sont morts 20 ans après, hein. C'est épouvantable, l'usine. Bon, moi, on mourait assez tôt, hein, 60 ans, on était vieux. Hein, et nous, voilà, les conditions de travail insupportables, il n'y avait pas d'esthétique dans l'usine. Hein, c'était le bagne, c'était vraiment le bagne. Et...
18 juin, le jour où sont amnistiés les généraux de l'extrême droite par le général de Gaulle. La reprise du travail a eu lieu chez Renault. Et voilà le camarade Blimont de la CGT qui vient vers vous.
Nous avions ce matin une entrevue avec la direction, l'inspecteur du travail et nous-mêmes représentants syndicaux CGT, CGTFO et CFDT. Il a bien fallu trouver un compromis. Il a été proposé à la direction d'Amiens la neutralisation de l'usine, c'est-à-dire l'évacuation totale des locaux. Un accord signé entre la direction, l'inspection du travail et les représentants syndicaux.
Bon, alors, qui est-ce qui a une question à poser ?
Tout le monde est
d'accord, même la CGC. Attends, je vais t'expliquer comment... Ah, ouais, exactement. On appelle neutralisation d'une boîte la fermeture intégrale de la boîte imprévisible de la direction des délégués et d'un initié pour reconnaître l'état dont on a laissé la boîte. Tu comprends ? Qu'on ne puisse pas dire après, 8 ou 10 jours après ou 8 ou 10 heures après, qu'à tel endroit il y a quelque chose de broyé ou autre chose de cassé.
Pendant l'inspection du travail, on est couvert.
Personne ne doit rentrer, à part ceux qui viennent discuter avec nous et nous-mêmes.
Camarades, ça doit plus tourner, ça. Non, plus personne. Ils s'en foutent de nous.
Mais il n'y a pas question de lâcher tout, voyons, tout l'argent, rien du tout, voyons.
Maintenant, je vais te dire ceci, hein. Je me dis franchement, on a retourné le problème dans tous les sens. Nous réfutons ce qu'on appelle l'air du travail, mais on ne peut pas réfuter notre organisation.
On ne peut pas réfuter notre organisation, dit le délégué CGT. Vous savez que la prise de son est meilleure que celle du film culte qui s'appelle La Reprise chez Vonder, une usine de Saint-Ouen, où beaucoup de gens ont vu ce film. Oui. Une jeune femme refuse de rentrer, le militant cégétiste la convainc, et puis des étudiants gauchistes sont là, qui secouent le cocotier, puis des employés municipaux du parti qui disent qu'il faut être raisonnable. Comment ça s'est passé, la reprise ?
Bah, c'est le même état d'esprit, hein. Elle criait, je vais pas rentrer dans cette tôle. Bah, nous non plus, on était dans le même, on veut pas reprendre avec rien. Vous nous avez trahis. C'était avec nos yeux de 20 ans. Bon, est-ce que on pouvait encore durer longtemps? Non. Renault avait repris, hein. Il fallait être réaliste. Ce qu'on ne sait pas, que ils ont neutralisé l'usine, donc, l'après-midi, on a dû quitter, nous. Hein, et on a repris 2 jours après. Hein. On est revenu, on a réoccupé. Bon, on était vraiment mécontents. Et c'est pour ça que dans les années qu'on suivit, on a beaucoup parlé de la trahison de notre syndicat. Est-ce qu'on pouvait aller plus loin? Bon, hein, les élections avaient lieu le dimanche 23.
René Lambs a été réélu.
Oui, sans problème. Et la droite aussi, bon,
la droite
ils jouaient, oui, ils jouaient un autre jeu, bon.
Et vous, comment votre vie est-elle transformée ? Vous quittez Haï, la maison familiale, vous vous installez à Amiens avec des camarades d'extrême gauche. Après, vous allez voyager, vous allez reprendre des études, parce qu'il y a des maoïstes intellectuels qui se sont établis à l'usine. Et vous êtes un ouvrier d'usine qui vous êtes établi dans les études. Enfin, ça n'a pas été simple.
Hein. Non, attendez, c'est quelques années après. Les années qu'on suit. Nous, on a été entraînés dans le mouvement gauchiste, à UGCML, on distribuait des tracts, on s'attaquait au petit chef. Le patron, bon, ça n'a pas tardé, il a tout fait pour faire licencier les ouvriers. Après, bon, je suis parti, moi. J'ai fait, comme beaucoup de jeunes, 68 heures. Certains sont à la Katmandou. Moi, je suis parti de l'église, la Tour Saint-Jacques à Paris, avec le sac à dos. J'ai fait le tour de l'Afrique. J'ai vécu dans plusieurs pays d'Europe, hein, à Londres et en Hollande. Donc, je suis revenu en France en 75. On m'attendait pas. Donc j'ai décidé de préparer le bac et je parlais l'anglais. Donc ensuite je suis allé 3 ans à l'université, licence de lettres et j'ai passé les concours de rédacteur. J'ai été accueilli à la mairie de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, mairie communiste. Donc pour un provincial, ça a été difficile de découvrir le métro, d'abandonner mon accent picard. Mais c'est la vie.
Et vous voilà rédacteur territorial à Saint-Ouen et archiviste du mouvement ouvrier, et pas seulement. Alors, je rappelle, le fonds Claude De Wael, il est aux archives de la Somme, les archives départementales de la Somme, qui lance, sur votre exemple, une grande collecte 1968 dans la Somme. Merci, monsieur De Wael.
Je vous remercie, monsieur Jean Lebrun, parce que c'est très rare de donner la parole aux ouvriers. Je vous remercie bien sincèrement.
Cette émission a été préparée par Frédéric Martin avec Ilinka Negulesco, à la technique Florent Beauvalet et Stéphane Rongsin à la réalisation.